Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Neveux de René, une émission destinée à découvrir les grands textes de la philosophie. Donc nous continuons le dialogue avec Charles Péguy. Donc lors de l'émission précédente, nous avons lu le début de la note conjointe sur Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne. Et comme promis, nous avons l'immense honneur et la joie d'accueillir Anthony Feneuil parmi nous. Et sans trop tarder, on va se replonger dans l'ambiance de cette note conjointe en lisant un extrait. Voilà, donc Anne va nous lire un passage où, après avoir évoqué la figure de Descartes, Péguy va nous parler de ce philosophe éminent qu'est Emmanuel Kant.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Ils ont cette idée que Kant s'est très bien fait, mais que précisément les grandes choses du monde n'ont pas été des choses très bien faites. Que quand c'est si bien fait que ça, ça ne réussit jamais. Ça ne reçoit jamais ce gratuit accomplissement, ce gracieux couronnement d'une haute fortune. Que quand c'est si bien fait que ça, il manque justement de ne manquer de rien. Ce on ne sait quoi, cette ouverture laissée au destin, ce jeu, cette ouverture laissée à la grâce, ce désistement de soi, cet abandonnement au fil de l'eau, cette ouverture laissée à l'abandonnement d'une haute fortune, ce manque de surveillance, au fond ce parfait renseignement, cette parfaite connaissance de ce que l'on n'est rien, cette remise et cette abdication qui est au fond de tout véritablement grand homme, cette remise aux mains d'un autre, se laissons aller, et puis je ne m'en occupe plus, qui est au creux des plus hautes fortunes. Kant s'en occupe tout le temps, du kantisme. Ce n'est pas la manière de réussir dans le monde. Les vers les plus beaux ne sont pas ceux dont on s'est occupé tout le temps. Ce sont ceux qui sont venus tout seuls, c'est-à-dire, en définitive, ceux qui ont été abandonnés à la fortune.
Bonjour Anthony Feneuil.
Bonjour.
Alors, merci d'être parmi nous. Alors, avant de commenter plus dans les détails ce qui a été dit par Anne, est-ce que vous pouvez simplement nous faire une petite présentation de vous, de votre travail et comment vous en avez été à connaître et à étudier Charles Péguy?
Alors, on pourrait dire, pour ce qui me concerne, il y a deux sources, si on veut. L'une étant la philosophie de Henri Bergson, justement, à laquelle j'ai consacré une grande partie de mon travail. Et il me semble que Péguy est un des plus grands bergsoniens, à n'en pas douter, hein. C'est-à-dire que c'est un de ceux qui a fait la lecture la plus productive et la plus féconde de l'œuvre de Bergson. Et puis, d'autre part, il se trouve que je concentre mes intérêts sur la philosophie de la religion et la théologie, ce qui fait là aussi de Péguy une référence incontournable pour le XXe siècle, hein, dont d'ailleurs, à mon avis, on n'a pas fini de tirer les fruits. Mais voilà, donc c'est les deux, à la fois la philosophie bergsonienne et puis la question théologique qui m'ont amené à m'intéresser à cette figure singulière et intéressante qu'est Péguy.
Merci. Et donc par rapport, pour rentrer dans ce texte, qu'est-ce qu'il vous en semble par rapport à cette question, à le rapport à Kant? En gros, qu'est-ce qu'il reproche à Kant? On a vu... bien que ça mériterait d'être revu, ce qui reproche entre guillemets à Descartes, bien qu'on sente, comme on l'avait dit, une certaine affection dans le ton, hein, mais qu'est-ce qu'il reproche à Kant?
C'est difficile, mais à mon avis, le Kant ici n'est pas. C'est-à-dire, ce qu'il reproche à Kant, ça n'appartient pas directement à Kant. Kant, c'est ici un personnage, disons, pour désigner quelque chose qui une certaine manière de penser peut-être bien plus générale que celle de Kant et qu'on pourrait désigner peut-être sous le nom de systématisme, je sais pas, la systématicité, c'est ça qui est reproché. C'est l'idée que la vérité dépendrait d'abord de l'attirail intellectuel et de la complexité de l'attirail intellectuel qu'on déploie autour d'elle. Et aussi avec cette idée un peu protestante pour le coup qu'on retrouve sans doute chez Kant, l'idée du travail, de plus un travail est rigoureux, plus un travail est long, plus un travail est compliqué, plus il est valable. Ce qui est en partie, Peggy rejette pas entièrement cette idée, hein, mais il s'en moque un petit peu aussi, notamment quand la complexité devient une méthode pour elle-même, hein, et quand la cohérence, la recherche de cohérence, on n'est qu'ancien et pas autre chose, on essaye de combler tous les petits trous du système.
Est-ce que ça reviendrait justement à critiquer un peu les systèmes déterministes, en fait, dont il parle un peu plus loin d'ailleurs, Peggy?
Oui, ça, tout ce qui, en fait, ce qui est au centre, à mon avis, de tout ce livre d'ailleurs, hein, c'est tous les systèmes qui, toutes les habitudes de pensée qui consistent à chercher à boucher les trous. Hein. Le système de Kant, c'est essayer de se protéger tout entier, de protéger la pensée de toute irruption de quelque chose qui viendrait la déranger. Et les Kantiens, peut-être d'ailleurs pas Kant lui-même, mais les Kantiens, et pas seulement les Kantiens, tous les épigones de philosophes, essayent de construire à partir des concepts du philosophe des murs pour se protéger de la réalité. Et c'est ça finalement que reproche Peggy, à mon avis, aux Kantiens.
Oui, et je pense à cette phrase de Jean Beaufré qui disait « Platon n'est pas encore un adepte du platonisme ». Et ça me rappelle ça, c'est-à-dire effectivement chez Platon, on l'a brièvement évoqué lors de la dernière fois qu'on avait discuté, il n'y a pas de pensée systématique, et c'est vrai que c'est les épigones qui viennent après qui essayent d'en faire quelque chose de systématique, voire de dogmatique. Mais là, il le reproche bien à Kant lui-même, hein, je crois, quand même.
Et puis,
Il y a ce côté systématique chez Kant. Hein.
Oui. Enfin, bon, voilà. Il y a même, à la vérité, si on voulait aller plus loin, l'inventeur de la systématicité, c'est Kant. Mmh. Hein. C'est le dernier Kant qui cherche par tous les moyens, et ça va être repris par tous ses successeurs, à construire un système. Mmh. Mais bon, voilà, c'est une figure pour quelque chose de plus large.
Oui. Mais toi, Sylvain, tu reprochais justement au début, en tout cas, à tes premières lectures de Peggy, d'être un peu désordonné ou de redire trois fois la même chose.
Ouais, c'était tout. Le problème des répétitions. Bon, là, dans ce passage, il y a moins ce problème-là. Par contre, il y a quand même quelque chose dans le passage-là qui est sujet à discussion. C'est l'idée des vers. Il parle des vers, hein, du poète. Les plus beaux sont ceux qui sont venus tout seuls. Quelque part, est-ce que c'est pas aussi justement nier l'effort, nier le travail? Alors, je dis pas que le travail doit être la valeur première dans tout, mais comment comprendre ça finalement?
C'est un peu pour ça que j'ai nuancé un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Le problème, enfin ce qu'il faut comprendre plutôt, c'est que bien que les vers les plus beaux soient ceux qui sont venus tout seuls, ça n'empêche pas que les vers ne peuvent venir tout seuls que si par ailleurs on est en train de travailler à faire des vers. C'est ça le paradoxe, hein. De même que dans la philosophie, l'accomplissement de la philosophie, qui est le fait que la réalité la touche finalement, il ne vient pas ailleurs que dans le travail patient de formulation de concepts, de réflexion sur l'intelligence, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui va... C'est la manière dont il va répondre aux gens, et c'est le but vraiment de ces deux notes, hein, de répondre aux gens qui vont critiquer Bergson, son maître, en l'accusant de justement dévaloriser le travail. Hein, en disant, parce que Bergson mène une critique de l'intelligence, c'est vrai, de la pensée intellectuelle, et les adversaires de Bergson vont utiliser le fait que Bergson mène cette critique de l'intelligence comme une attaque contre lui pour dire, mais voyez, en dévalorisant l'intelligence, vous dévalorisez le travail, la patience du concept, etc. Et Peggy va dire, mais non, le travail, il est nécessaire, mais justement pour comprendre, parce qu'on ne peut pas sans travailler l'intelligence, sans travailler le concept, on ne peut pas comprendre les limites de ce concept. De même pour la poésie, c'est en travaillant sur des vers qu'on comprend que finalement, en travaillant le langage, qu'on comprend que la plus belle invention du langage, ce n'est pas nous qui pouvons l'affaire finalement.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous est donné de l'extérieur.
Exactement, mais ça, se donner de l'extérieur, on est obligé pour s'en... Si on travaille pas, si on fait pas, si on ne patiente pas et qu'on travaille pas des vers, pour filer cette métaphore, de manière construite et patiente, on peut pas s'apercevoir de la différence entre un bon et un mauvais vers. On peut pas savoir quand vraiment...
Ouais.
La poésie, enfin un vers exceptionnel apparaît. Pour le voir, il faut commencer par faire ce travail.
D'accord.
sur le langage. Même chose pour la philosophie. Il faut commencer par faire le travail du concept, le travail intellectuel, pour s'apercevoir des limites de l'intelligence. Si on fait pas, si on mène pas l'intelligence jusqu'au bout, on s'aperçoit pas qu'elle a des limites. C'est pour ça que c'est le contraire d'une paresse, finalement, cette idée qu'il y a des limites à l'intelligence.
Et alors ça, c'est marrant, ça me fait penser justement, est-ce qu'on pourrait pas rapprocher cette histoire de, bah, de mécanique déterministe de travail et puis de tout ce qui va être au-delà de ça, de, comment dire, de l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse chez Pascal?
Oui, sans doute.
Parce que la géométrie, c'est quelque chose de droit et carré où il n'y a pas de place à, il y a pas de place à l'inattendu d'une certaine façon. C'est complètement mécanique.
Mmh. Oui, pourquoi pas. C'est juste à condition, effectivement, de comprendre que les deux sont indissociables. C'est-à-dire, cette part de bonne fortune, comme dit Peggy, qui arrive à la philosophie quand elle atteint la vérité, elle ne peut être perçue, saisie, que si par ailleurs on a fait le travail conceptuel qui permet de voir tout ce qui n'est pas bonne fortune mais tout ce qui est construction justement. Donc c'est, il y a un petit paradoxe là mais qui se comprend finalement. Faut d'abord connaître, savoir tout ce dont est capable l'intelligence pour percevoir les moments où on est au-delà de l'intelligence et pas seulement en deçà, quoi, pas seulement dans les...
Ça c'est intéressant et c'est très intéressant aussi je pense pour la philosophie, parce que nous-mêmes on essaye de mener ce travail-là en commun dans un atelier de philosophie. Effectivement, à la suite de l'atelier, on essaye de rédiger des protocoles, et c'est une page ou deux pages, et c'est d'une extrême difficulté. Et il faut sans doute, enfin, il faut la plupart du temps plus de temps que la séance n'en a demandé pour rédiger cette page ou ces deux pages. Ça me rappelle ça, ce que vous évoquez. Et Anne, toi, ce que tu trouvais justement magnifique, c'est Peggy, c'est justement ce travail de la langue qui, petit à petit, s'achemine vers la parole, comme l'avait dit dans un de ses textes François Veuzin. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelque chose en train de se faire, en train de se formuler, de se reformuler, et tu comparais ça à une piste de ski.
Non, en fait, là, quelque part, il écrit magnifiquement, mais il écrit quelque part comme on parle. Quand on dit que quand c'est si bien fait que ça, c'est de la parole. Mmh. Donc, en fait, dans ce que j'ai lu, il est très, très proche de la parole.
Hein. Oui.
Il dit aussi Kant s'en occupe tout le temps. Point. Du kantisme, point. Comme on parle. Mmh. Voilà. Donc, il n'écrit pas, il n'est pas en train de faire de la littérature comme on la conçoit d'habitude. Donc, là, il écrit vraiment comme on parle. Et je dis, c'est peut-être pour ça qu'on a tellement de plaisir à le lire, parce que moi, quand je le lis, il est comme ça, il nous entraîne. Et puis, j'ai l'impression, voilà, c'est du vrai fun. Je suis comme sur une piste de ski. Mmh. Et puis, après, quand je suis en bas, j'ai juste envie de remonter et de redescendre. Et voilà, parce que c'est très, très agréable à lire.
Et ce qui veut dire aussi que peut-être aussi pour lire Peggy, bon, ça peut pas se faire pour la note conjointe, parce que c'est, mais il faut peut-être le lire à voix haute quelque part aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Anthony?
Je sais pas, c'est vrai que la piste de ski, moi, j'aurais l'idée du tourbillon plutôt, c'est-à-dire, mais le problème, c'est que c'est vrai que c'est un tourbillon dans lequel soit on est complètement extérieur, soit on se laisse emporter, mais on peut rester extérieur.
Je comprends tout à fait qu'on n'aime pas. Hein. Voilà. Ça marche ou ça marche pas. Mais si ça marche, c'est.
Mais le tourbillon, il y a un centre. Il y a un centre.
Oui, et bien sûr. Alors, ce qui est très étrange, c'est dans tous les textes de Peggy d'ailleurs, qui sont toujours des textes de circonstances, le centre n'est jamais justement dit. C'est-à-dire, il dit jamais je vais écrire un texte sur tel problème.
D'accord.
Il commence par, parler de Victor Hugo, et puis il va finir par parler de tout autre chose. Mais c'est normal, parce qu'un tourbillon, justement, on fait des grands cercles.
Oui.
Autour.
Mais c'est un peu systématique.
Il y a pas une histoire de la pensée, qui est mouvante.
C'est différent d'un fleuve, par exemple, qui aurait des méandres, qui rebondirait, qui aurait des chutes.
Non, c'est pas systématique dans le sens où, enfin, tout dépend ce qu'on appelle systématique. Encore une fois, ce que j'appelais systématicité tout à l'heure, c'est différent de la cohérence. Hein. Mmh. C'est-à-dire, c'est cohérent, la pensée de Peggy.
Oui.
Et il y a un seul, chacun de ces textes a un seul texte.
Oui.
Un seul centre, pardon. Par exemple, dans la note conjointe, le centre, c'est clair, c'est la question du temps.
C'est la question
et même du
temps.
Présent.
Et c'est pas la question de la grâce.
Non, je ne crois pas. Je crois que c'est la question du temps et que cette question du temps est directement liée à celle de la grâce.
Oui.
Ou plutôt la question de la grâce est indissociable de la question du temps, mais je pense que c'est la question du temps.
D'accord. Parce que justement, on s'est interrogé au moins dans les pages du début de ce texte. Il insiste beaucoup, il prend cette métaphore physique d'un matériau qui peut être mouillé ou pas. Et il dit, voilà, la grâce, c'est comme ça. C'est pas parce que je rajoute beaucoup d'eau dans un matériau qui va être plus mouillé, c'est sa constitution à lui qui va permettre d'absorber ou non l'eau. D'accord ? Et moi, j'ai eu l'impression, mais peut-être je n'ai pas lu dans les détails, que c'était ça qu'il travaillait, et finalement qu'il va démolir un certain nombre de choses, notamment la question de l'habitude, puisque le vrai chrétien chez lui, c'est pas celui qui a l'habitude, je dirais, de faire toujours les mêmes choses, mais il dit presque qu'un voyou a plus de chances d'être touché par la grâce que quelqu'un qui est bien dans des rails.
Il le dit pas presque, il le dit.
Il le dit complètement.
Il le dit. Ouais. Mais c'est assez, ce qui est assez orthodoxe, au fond.
Oui.
Hein.
Oui.
Mais en fait, vous voyez là, comme déjà, avec les plusieurs choses dont on a parlé depuis le début de l'émission, en réalité, on a fait ce même,
tourbillon.
Voilà. Mmh. Hein. C'est-à-dire, on a parlé des systèmes. Systématicité philosophique. C'est exactement le même problème que la question de l'imperméabilité à la grâce d'une âme,
ouais.
Par exemple.
Il parle d'accrochage, ouais, effectivement.
Voilà, c'est exactement le même problème. C'est le problème de construire des cloisons imperméables à l'événement. Et la grâce, c'est la figure de l'événement par excellence.
Ouais.
Et l'événement, qu'est-ce que c'est? C'est le présent. Et c'est pour ça qu'ensuite, toute la deuxième partie du livre va être consacrée à une réflexion sur le présent. Parce que la grâce, c'est la grâce que quelque chose advienne.
Ouais. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est cette opposition qu'il fait à l'habitude. Il parle de durcissement de l'âme, hein, où on devient imperméable justement à ça, à cet événement, à cette grâce éventuelle qui pourrait arriver. Ça, c'est vraiment intéressant.
Chemin de pensée sur RCF.
Nous reprenons la discussion autour de la note conjointe sur Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne. Vous êtes avec les neveux de René Descartes. Et nous discutions justement de cette question de l'habitude, de l'âme qui se ferme à elle-même, à son devenir, à son présent, à l'événement. Et finalement, en déployant le texte de cette note conjointe, Lapsus, Peggy, justement, pas Descartes, va arriver à nous parler du journal. Est-ce que, Anthony Feneuil, vous pouvez nous dire si une interprétation peut-être un peu hâtive, c'est que le journal, c'est une forme de se couper à l'événement, justement. Est-ce que on n'est pas dans l'habitude, on lit le train-train, on est dans la facilité, parce que le journal, c'est le contraire de la poésie, c'est le contraire de cette lutte avec l'événement. Bon, bah, le journal, c'est ce qu'il y a de plus quotidien. On peut même penser à, je sais pas, à la méditation sur le journal qu'ont fait les premiers cubistes, Braque, Picasso, je sais pas, ça mériterait peut-être d'être médité. Mais est-ce que c'est ça que nous dit Peggy quand il prend le journal?
Oui, et puis on pourrait penser aussi à Hegel, hein, qui a une déclaration célèbre, qui dit que l'homme moderne, il fait sa prière tous les matins en lisant le journal.
Oui, hein. Alors... Je voudrais dire une petite chose. Est-ce que l'homme moderne d'aujourd'hui fait pas sa prière en ouvrant son email?
Mais pour Peggy, pour Hegel, c'était une qualité, hein, de l'homme moderne. C'est
oui.
Qu'il avait compris que désormais Dieu parlait par les événements du monde, en fait.
Ah oui.
C'était ça. Donc Peggy se.
Mais du coup, c'est une vision complètement opposée.
Voilà, Peggy se retourne entièrement la chose en disant, au contraire, le journal, c'est la disparition de toute. Tout rapport authentique au monde, on pourrait dire. Et pourquoi? Parce que le journal, il considère le monde, non pas, et les événements du monde, non pas comme présent, mais comme déjà passé. C'est ça que ça veut dire,
il
raconte au passé.
Au passé. Je vous propose qu'on lise ces passages de Peggy, parce qu'ils sont aussi magnifiques. Alors, on va donner la parole à Sylvain.
Oui. Alors, je suis convaincu qu'il y a des bons et des mauvais imprimés. Et peut-être beaucoup d'entre deux. Je suis convaincu qu'il y a une bonne et une mauvaise presse, et peut-être beaucoup d'entre deux. Ce qu'il y a de bon, c'est que la bonne presse est quelquefois mauvaise, et peut-être souvent. Et que la mauvaise presse n'est jamais bonne. C'est toujours le même système de l'irréversibilité et de la dégradation continue. On perd toujours, on ne gagne jamais. Eh bien, ce que je dis, c'est que les mauvais journaux font infiniment plus de mal comme journaux que comme mauvais. La mauvaise presse fait infinitivement plus de mal comme presse que comme mauvaise. Et c'est ici enfin que nous rejoignons notre Bergson. Une mauvaise idée toute faite est infiniment plus pernicieuse comme toute faite que comme mauvaise. Une idée fausse toute faite est infiniment plus fausse comme toute faite que comme fausse.
Merci. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait qualifier, si on ne lit pas peut-être assez vite, de pessimiste ? Il parle de dégradation continue et d'irréversibilité. Est-ce qu'il y a cette idée que le monde va mal et qu'il va aller de plus en plus mal ?
Oui, mais c'est pas le monde. En fait, tout dépend à propos de quoi on est pessimiste. Là, ce à propos de quoi exactement est pessimiste, c'est Peggy, c'est à propos de notre manière de parler du monde. Ce que retire Peggy de Bergson, là, c'est que notre intelligence, et vous voyez, ça, encore une fois, là, on parle d'autre chose, on parle de la presse, mais en fait, on parle de la même chose que tout à l'heure, exactement, quand on parlait des systèmes qui empêchent de voir la réalité, qui mettent des cloisons étanches entre nous et la réalité. Mais là, c'est la même chose. L'intelligence humaine, elle a comme principe de fonctionnement le fait de limer, de lisser les aspérités de l'événement.
Oui.
Elle l'aura, et c'est pas bien ou mal, c'est un fait. Donc c'est pour ça que ça semble pessimiste. Hein. Ça veut dire que quand on cherche à s'approprier de manière intellectuelle, alors l'imprimer, c'est ça que ça veut dire, hein, d'abord. L'imprimer, c'est d'abord, l'écrit, c'est la démarche intellectuelle. C'est la démarche qui se retire au lieu l'opposé du journaliste, pour Peggy, c'est l'homme d'action.
Ah oui.
Donc l'imprimé, c'est celui qui lit le journal, c'est celui qui regarde.
Ah oui,
qui a intellectualisé l'événement.
Oui, il y a une passivité aussi.
Voilà, une passivité. Et en l'intellectualisant, l'événement, il l'a neutralisé. Il l'a transformé et neutralisé. Pour Peggy, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir transformé un événement qui arrive maintenant, aujourd'hui, là, il s'est passé quelque chose hier qui est en train de se passer en réalité. Donc je devrais me saisir de cet événement pour faire quelque chose dans un sens ou dans l'autre, hein, peu importe. Mais au lieu de ça, je lis le journal, c'est-à-dire je transforme ce qui advient et qui devrait m'encourager à une action en autre chose, en une histoire que je me raconte, qu'on me raconte. Et ce faisant, je mets entre moi et la réalité un filtre opacifiant qui change ce qu'est la réalité elle-même, qui change en tout cas ce qu'est mon rapport à la réalité. Et c'est ça, c'est là d'où vient son pessimisme. Son pessimisme, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de la réalité, on la perd.
Juste, peut-être on peut faire comme Peggy et reprendre ce point. On peut donner la parole à Anne qui va nous lire juste la suite de ce qu'on a lu. Et on va voir ce côté de reprendre les choses. Je ne veux pas dire répétition parce que reprise me paraît mieux, hein. C'est un peu comme quand on fait de la couture, on reprend et on reprend. Alors, on va donner la parole à Anne.
C'est en ce sens que l'invention du journal est sans aucun doute celle qui fait époque, celle qui marque une date depuis le commencement du monde, et cette date est la date même du commencement de la décréation. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée. C'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise âme et même de se faire une mauvaise âme. C'est d'avoir une âme toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse. C'est d'avoir une âme habituée.
Ça, c'est fort, hein. Ça, c'est très, très fort. Quelques mots pour chacun pour
vous. Oui, je trouve que ça résonne beaucoup avec ce qu'on vit aujourd'hui, hein, notamment, voilà, avec la médiatisation du monde. Mm-hmm. C'est-à-dire que malheureusement, je crains qu'on s'habitue à tout ce qui se passe dans le monde et d'une certaine façon, ça encourage cette passivité, je pense, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est tellement submergé d'informations, de choses qui se passent dans le monde et auxquelles on a l'impression de rien pouvoir faire.
Oui, les guerres, les réfugiés, ouais.
Ça nous habitue à ça, en fait.
Oui.
Ça nous habitue à se dire qu'on ne peut rien faire.
Anne, deux mots pour.
Il y a un mot énorme là-dedans. Il y a le mot décréation.
Décréation.
C'est le commencement de la décréation. Donc, on sait ce que c'est que la création. Oui. Je sais pas.
Oui, un mot de conclusion, Anthony.
Non, mais effectivement, pour Peggy, le réel, pour Bergson d'abord, et là-dessus, Peggy est vraiment bergsonien, le réel, la réalité, c'est la création. Ça n'est réel que, et on pourrait dire même, ça n'est réel que quand ça crée. Et donc, quand on se rapporte au réel sur le mode de l'histoire, et l'histoire, ça commence dans le journal, c'est ça que dit Peggy, hein, on commence à raconter les choses au lieu de les vivre, et ben, c'est ça la décréation, c'est qu'on est déjà, on s'est échappé du monde et on a quelque part détruit ce qu'avait le monde de réel. puisque c'était là, son aspect créateur.
Bon, ben merci beaucoup pour cet entretien très enrichissant. On a loin d'avoir fait le tour de la question, on vient à peine d'aborder la pensée de Peggy. Donc nous donnons rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines, lors du prochain épisode des Neveux de René, pour continuer avec la note conjointe sur Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne. Merci à toutes et à tous, et au revoir et à la fois prochaine.